France Culture.
Bonjour à tous. Jusqu'où ira l'escalade militaire entre l'Iran et Israël? Une nuit encore marquée par des sirènes d'alerte à Tel Aviv, Téhéran riposte à l'attaque massive de l'État hébreu. On fait le point dès le début de ce journal. Un conflit qui menace d'entraîner toute la région dans la guerre à Beyrouth. Les habitants retiennent leur souffle et craignent l'embrasement. En Géorgie, les pro-européens essayent toujours de se faire entendre malgré l'arrivée au pouvoir d'un président pro-russe en décembre dernier. On y revient en longueur avec notre invité, Salomé Zourabichvili, ancienne présidente du pays. En France, dernier jour du congrès du PS à Nancy, Olivier Faure, réélu premier secrétaire du parti, a pris la parole. On rejoindra Laurence Mérite sur place. Et puis les livres audio sont-ils menacés par l'intelligence artificielle? Un label veut à tout prix conserver les voix des comédiens. Les attaques de l'Iran s'arrêteront lorsqu'Israël cessera son agression. Les mots du ministre iranien des Affaires étrangères alors que le conflit s'embrase entre les deux pays. Il n'y a qu'à voir les images des bâtiments éventrés réduits en ruines 48 heures après le début de l'attaque massive de l'État hébreu sur Téhéran. L'Iran riposte. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, en Israël, les secouristes continuent à rechercher des survivants après la double salve iranienne qui a fait 10 morts et près de 200 blessés.
Oui, c'est un bilan encore provisoire. Les sauveteurs recherchent encore activement 3 personnes qui sont toujours portées disparues. Dans le nord, lors de la première salve, ce sont 4 femmes de la même famille qui ont trouvé la mort dans la ville arabe de Tamra. Dans le centre du pays, un autre barrage de missiles a lui provoqué la mort de 6 personnes, dont 2 enfants, et cela s'est passé à Bat Yam, une banlieue au sud de Tel Aviv. Élément nouveau ce matin, un porte-parole de l'armée israélienne a publié pour la première fois un avertissement d'évacuation avant attaque destiné aux Iraniens. Pour votre sécurité, nous vous demandons d'évacuer immédiatement toutes les usines d'armement en Iran et les organismes qui les assistent et de ne pas y retourner jusqu'à nouvel ordre. Israël confirme avoir frappé cette nuit une installation gazière près de Bandar Abbas dans le sud de l'Iran, et cela en plus du terminal de carburant attaqué hier dans la région de la capitale iranienne. Pendant la nuit, les appareils israéliens ont pilonné des objectifs à Téhéran. Israël dit avoir visé le ministère de la Défense, mais aussi le SPND, le siège de l'Organisation d'innovation et de recherche défensive. Et encore un point, Chloé, il y a quelques instants, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé que son pays pourrait cibler des responsables du régime iranien.
Michel Paul, merci pour ces explications. Michel Paul de RFI à Jérusalem pour France Culture. La France qui annonce par ailleurs en fin de matinée ne pas avoir à ce stade mobilisé ses moyens militaires pour défendre Israël. Une guerre ouverte qui menace d'entraîner toute la région dans la guerre. Le Liban tente d'échapper à l'escalade. Vendredi, le président Joseph Aoun a annoncé dialoguer avec le Hezbollah de peur qu'il ne s'implique dans la riposte iranienne contre Tel Aviv. Pour l'instant, pas d'implication, mais les Libanais, eux, retiennent leur souffle. À Beyrouth, c'est d'abord la colère qui s'exprime, Arthur Saradin.
À Beyrouth, dans la grande rue Bchar al-Khoury qui coupe la capitale en deux, c'est d'abord la colère qui s'exprime.
Les Iraniens et les Israéliens ne savent pas ce qu'ils font. On vit au jour le jour à cause d'eux.
Nabil n'est pas le seul dans cette rue à ne plus supporter l'état d'alerte permanent dans la région. C'est le cas également de Khalil.
Qu'ils fassent la guerre entre eux, sentant que c'est la même chose. Des bombes, encore des bombes.
Et aussi de Harissa, la trentaine.
Moi, Israël a détruit ma maison. Je me suis fait à l'idée qu'il fallait bien mourir un jour. On a vu hier les missiles passer au-dessus du Liban. Pour une fois qu'ils tombent ailleurs que chez nous, ça nous a fait plaisir. L'Iran tient l'avenir de la région entre ses mains, alors on verra bien.
Le Hezbollah, très affaibli, n'a pas vraiment les moyens de rentrer dans cette guerre pour soutenir son parrain iranien. Ahmad, dans son café au bout de la rue, est l'un des rares à garder un peu d'optimisme.
Tant que le peuple sera solidaire et uni derrière le nouveau président, tout ira bien. Et que le Hezbollah ait dit vendredi qu'il ne rentrerait pas dans ce conflit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassuré.
L'Iran a pourtant les moyens de pousser à l'embrasement. Et Tel Aviv, de son côté, pourrait profiter du conflit pour attaquer encore le Liban et affaiblir un peu plus le Hezbollah. Les Libanais, quant à eux, n'en ont pas fini avec les incertitudes.
Le reportage d'Arthur Saradin à Beyrouth, au Liban. C'est un pays qui affronte l'une des plus graves crises de son histoire, la Géorgie, où les pro-européens essayent toujours de se faire entendre malgré l'arrivée au pouvoir d'un président pro-russe en décembre dernier. Le parti au pouvoir qui a décidé de suspendre le processus d'adhésion à l'UE un an après avoir obtenu le statut de candidat. Un basculement géopolitique au profit d'un rapprochement avec Moscou perçu comme une trahison par tout un peuple qui depuis manifeste dans les rues. Pour en parler avec nous, on reçoit Salomé Zourabichvili. Bonjour.
Bonjour.
Présidente de la Géorgie de 2018 au 29 décembre 2024, ancienne diplomate française. Salomé Zourabichvili, 6 mois après ces élections législatives contestées et ces manifestations, le début de ces manifestations massives, vous vous considérez toujours aujourd'hui présidente légitime de la Géorgie ?
Oui, en attendant qu'un président légitime soit élu par un parlement issu d'élections non contestées et qui lui-même aurait été réuni dans les conditions prévues par la Constitution géorgienne, ce qui n'a pas été le cas, les élections par le Parlement du président n'ont pas non plus été tenues dans les conditions prévues par la Constitution. C'est toutes ces raisons qui font que pour le moment, j'incarne la continuité et la légitimité de la seule institution qui reste indépendante du parti au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, toutes les institutions géorgiennes sont aux mains d'un parti unique et d'un dirigeant unique de ce parti.
Oui, les refus d'entrée sur le territoire notamment se multiplient contre les journalistes, militants de la société civile, responsables politiques. La semaine dernière, un jeune militant aussi a été condamné. Y a-t-il encore un espace politique pour les oppositions ?
Alors l'espace politique se réduit comme une peau de chagrin. Vous avez raison de mentionner les arrestations des activistes qui ont été, il faut le noter, ils sont depuis 6 mois en prison, en détention préventive, en attendant la sentence d'une cour qui est elle-même aux mains du parti au pouvoir. Donc on sait quelles seront les sentences qui seront prises. Et la première sentence un peu symbolique, c'était justement celle de ce jeune activiste mis en prison alors qu'il avait simplement 20 ans. Il a eu 21 ans dans la prison et on lui a donné 4 ans et demi d'emprisonnement désormais pour rien.
Oui, pour rien. Est-ce que l'adhésion à l'Europe, elle est compromise pour longtemps ?
L'adhésion à l'Europe, aujourd'hui, elle est compromise parce qu'on n'imagine pas un État dictatorial et surtout qui agit sur les instructions de Moscou. Parce qu'il faut bien voir que ce qui se passe en Géorgie n'est pas indépendant de notre grand voisin du Nord. Il est en train de faire en Géorgie, par la voie indirecte et entre guillemets pacifique, ce qu'il n'a pas réussi à faire en Ukraine par la voie militaire. Donc c'est vraiment une capture d'État faite par le régime russe d'un pays qui était en train de s'approcher dangereusement pour Moscou de la porte de l'Europe.
Et sur la question, toujours sur la question de l'adhésion à l'Union européenne, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la France ?
De la France comme de nos partenaires européens, mais comme la France est aujourd'hui probablement l'un des leaders les plus actifs avec l'Allemagne et avec la Pologne en ce qui nous concerne, parce que le trio de Weimar est probablement celui qui exprime la voix européenne pour nous, pour la Géorgie, sur la situation géorgienne. Nous attendons de voir une condamnation encore plus claire de ce qui se passe en Géorgie, parce que ce n'est plus une dérive autoritaire, c'est un régime russe qui est en train de s'installer sans coup férir, et ça demande à être dénoncé très clairement. Et aujourd'hui, toutes les sanctions nécessaires doivent être prises pour arrêter cette dérive extrêmement dangereuse, parce que voir un pays qui n'était pas encore 100% démocratique, mais qui était très avancé dans la voie de la construction des institutions, qui a obtenu le statut de candidat, pouvoir dériver avec cette vitesse et aujourd'hui se transformer dans un État où, comme vous le disiez tout à l'heure, le notiez, l'espace politique est quasiment réduit à néant. C'est extrêmement dangereux parce que c'est un modèle qui demain peut être reproduit avec la même aide indirecte de la Russie dans d'autres pays. On a vu les tentatives en Moldavie, en Roumanie, Ça sera peut-être la tentative de l'après en Ukraine, une fois qu'il y aura peut-être un cessez-le-feu. Et c'est quelque chose qui est tenté de différentes façons, en Pologne, en Allemagne. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est un petit peu ça notre appel, c'est que ce qui se passe chez nous ne nous concerne pas seulement nous. Pour ça, nous nous battons depuis 6 mois, depuis 7 mois, et en réalité depuis plus longtemps que ça. Mais ça concerne tout le monde, chaque pays européen, parce que ces dérives démocratiques, on le voit, elles sont très faciles à tout d'un coup mettre en place et c'est beaucoup plus difficile à arrêter.
Merci beaucoup Salomé Zourabichvili d'avoir été avec nous, présidente, ancienne présidente de la Géorgie de 2018 à 2024. Retour en France, le congrès du Parti Socialiste touche à sa fin aujourd'hui à Nancy. Pendant 3 jours, il a été question de rassembler, de rechercher l'unité au sein du PS, d'un PS divisé en 2 blocs. D'un côté, celui d'Olivier Faure, réélu de justesse et pour la 4e fois premier secrétaire du parti. De l'autre, son rival Nicolas Meyer-Rossignol. 3 jours au cours desquels le PS s'est déchiré sur sa relation avec LFI. Laurence Mérite, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Palais des Congrès de Nancy, le congrès qui se termine par le traditionnel discours du premier secrétaire.
Olivier Faure, acclamé dès son entrée. Il entre porté par les applaudissements des militants, prolonge une embrassade avec son rival Nicolas Meyer-Rossignol, puis le premier secrétaire prend la parole au pupitre.
Je rêve peut-être qu'un jour nous puissions nous retrouver à nouveau dans une grande fédération de toute la gauche qui permettrait d'avancer à d'autres horizons. Et dans cette fédération, nous inclurons Cyril Châtelain et les écologistes.
Unité aussi avec les communistes, mais et l'unité au sein même du parti? Eh bien, c'est un échec. Nicolas Meyer-Rossignol exige une rupture totale avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Plus jamais d'accord électoral avec la France insoumise. Olivier Faure refuse, notamment pour être en mesure de faire barrage à l'extrême droite. Son rival le déplore.
La direction sortante prend de ce fait la responsabilité de diviser le Parti socialiste. C'est une responsabilité qui est très grave. Parce qu'avec cet amendement, le Parti socialiste était uni. Et ce congrès aurait alors été une réussite pour le Parti socialiste et pour toute la gauche.
Alors que le discours du premier secrétaire se poursuit, qu'il invite à rompre avec l'unique obsession, LFI appelle le PS à prendre le leadership à gauche. C'est sur ce désaccord en interne, à 8 mois des municipales, 2 ans de la présidentielle, que se termine le congrès du PS.
Laurence Mérite avec les moyens techniques de Hélène Langlois. Emmanuel Macron est en route pour le Groenland pour sa première visite de ce territoire autonome du Danemark. Le chef de l'État entend envoyer un signal fort à Donald Trump, le président américain qui multiplie les menaces d'annexion. Pour des livres audio 100% humain, le syndicat national de l'édition SNE a dévoilé cette semaine un label Interprétation humaine qui figurera bientôt sur chaque couverture. Un gage de qualité pour l'auditeur. Pour l'instant, les exemples de livres audio réalisés avec l'intelligence artificielle sont rares, mais il faut s'y attendre et l'anticiper. Laure Sagé, présidente de la commission livres audio du SNE.
Il n'y a pas d'urgence ou de danger immédiat pour nous au niveau des livres audio, puisqu'il y a aujourd'hui assez peu de livres audio qui sont publiés à travers des voix ou de synthèse ou ce qu'on appelle des voix clonées. Mais en revanche, on sent que les choses vont arriver. Et l'idée, c'était plutôt de mettre en valeur le talent et la qualité des productions livres audio qui sont faites avec des vrais comédiens et de défendre finalement le travail de co-création qui est fait entre les éditeurs de livres audio, les comédiens et les studios. Puisque pour nous, le comédien est vraiment le médiateur. Il ajoute du sens, il intervient sur l'interprétation et il va être celui qui va transmettre le sens et le choix éditorial de l'éditeur de livres audio dans la manière dont il va transposer un livre en audio. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est surtout la question de la première expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui découvrirait le livre audio et sans s'en rendre compte, écouterait un livre audio interprété par une IA et penserait que c'est ça le livre audio. J'ai peur de cette première expérience décevante et je trouverais tellement dommage par rapport à tout le travail qu'on fait, tous ces talents cumulés qui sont mis à disposition du livre audio, je trouverais vraiment dommage qu'un auditeur de livre audio ait cette première mauvaise expérience. Et c'est pour ça que c'est important que sur chaque livre audio, il y ait cette mention pour être certain que la personne qui écoute sait ce qu'elle écoute.
Propos recueillis par Adrien Toffolet. La météo, 14 départements du centre-est et du nord-est en vigilance orange aux orages à partir de cet après-midi. Côté température, la chaleur restera présente dans le quart sud-est avec 32 à 35 degrés de Béziers à Valence et à Nice. 37 degrés dans le Var. Il fera moins chaud dans le reste du pays. 21 à 24 degrés en moyenne. 25 à 28 degrés en Alsace et en Rhône-Alpes.